autour de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver, chers amis auditeurs, pour nous demander pourquoi et comment mettre de la mesure en toutes choses. C'est-à-dire à la fois pourquoi avons-nous besoin de mesurer le monde, de le quantifier toujours plus précisément, mais aussi comment avons-nous réussi à nous accorder, à nous entendre sur un système de poids et de mesure universel, et à quel point c'est essentiel et central dans le fonctionnement de nos sociétés humaines. D'autant que ce système international et universel, élaboré il y a 150 ans, a su opérer sa révolution en 2018 en basant quatre de ses principales unités de mesure, à commencer par le kilo, sur les unités fondamentales de la physique quantique, en l'occurrence la constante de Planck. Alors comment avons-nous réussi à nous entendre pour mettre le monde en mesure de plus en plus précise, et jusqu'où nous entraînera cette métronomanie, vers la quantité ou vers la qualité? Comment faire bonne et juste mesure? Ce sont de vrais enjeux scientifiques, économiques, politiques et sociaux que nous allons éclairer avec nos invités, l'historien Fabrice Boudjaba et le physicien Jean-Michel Courty. Tous deux ont dirigé avec la philosophe Marie Gaille l'ouvrage collectif « De la mesure en toutes choses » qui vient de paraître aux éditions du CNRS en écho au colloque organisé lors de la redéfinition des unités de mesure en 2018, intitulé « Tous mesurés, tous mesurants », cela pourrait presque être notre mot d'ordre aujourd'hui, autour de la question « Pourquoi de la mesure en toutes choses ?» Bienvenue pour chercher ensemble l'unité spéciale.
Mec, tu trouves pas qu'il y a trop d'unités?
Comment ça?
Bah le litre, le gramme, le mètre, c'est une galère de ouf.
Pourquoi?
Bah regarde, l'eau par exemple. Un litre d'eau, c'est un kilogramme d'eau. Mais c'est aussi un décimètre cube d'eau. Tu trouves pas que c'est grave embrouillant?
Bah non.
Genre faudrait inventer une seule unité, qui rassemble tout. Une unité spéciale quoi.
Non mais mec, je t'arrête tout de suite, hein, c'est pas possible. Tu peux pas avoir un truc qui mesure à la fois une taille, un volume, un poids?
Ça c'est parce que t'y connais rien, t'as aucune vision.
Kevin Tran, alias le rire jaune, sur YouTube et son unité spéciale pour ouvrir avec le sourire notre questionnement autour de la mesure. De la mesure en toute chose, c'est l'excellent titre de cet ouvrage non moins excellent, collectif et singulier, dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs qui êtes loin d'ici. Ouvrage que vous venez de diriger aux éditions du CNRS. Bonjour Fabrice Boudjaba.
Bonjour Caroline.
Bonjour Jean-Michel Courty.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous pour partager donc tous ces regards croisés de chercheurs en sciences exactes comme en sciences humaines, et ça c'est une première, sur cette question de la mesure. Jean-Michel Courty, vous êtes physicien, professeur à Sorbonne Université, chercheur au laboratoire Kessler-Brossel, vous êtes aussi le promoteur d'une super chaîne YouTube, Merci la physique, on y reviendra, car vous nous y apprenez notamment dans un de vos derniers épisodes comment mesurer, comment peser son chat. Plus sérieusement, pourquoi et comment, Jean-Michel Courty, les humains que nous sommes avons besoin de mesurer tout ce qui nous entoure, et de nous accorder sur ces mesures, à commencer par celle du temps. Hein. En ce moment, on est en temps universel sur RFI, mais on s'accorde bien sur nos heures, nos horloges, et sur toutes ces mesures.
Ce besoin de s'accorder sur les mesures, il vient de multiples origines, qui en fait se sont rencontrées au 18e. On a les scientifiques. On a le développement de la science newtonienne et le fait d'avoir, alors on n'est pas encore à la mondialisation, mais on commence quand même à avoir une internationalisation de la science. Et il faut que les scientifiques puissent comparer leurs résultats, comparer leurs mesures. C'est quand même mieux s'ils partagent les mêmes unités.
Ça, voilà. Clair.
Et puis en même temps, il y a des besoins politiques et économiques. Et on est juste après la révolution. Et finalement, c'est au croisement des scientifiques et de la politique que va se passer cette révolution des unités et qui vient de 1790, en fait, avec
juste
l'Académie...
La Révolution française.
Alors, juste
des
après
Lumières.
La Révolution. Et en fait, on a cinq scientifiques avec une commission, Borda, Lagrange, Laplace, Monge et Condorcet, que des grands noms, qui vont faire des propositions. Alors, on les charge en 1790 de faire un rapport et ils rendent leurs conclusions en 1791, et leur objectif, c'est de se dire, jusqu'à présent, les unités, elles sont un peu arbitraires, c'est la taille du roi, c'est le machin. Il faudrait avoir des unités à tous les hommes, à tous les temps.
C'est-à-dire universel, comme la déclaration des droits de l'homme.
C'est vraiment ça, il y a, vraiment un idéal révolutionnaire d'universalité qui fait que les unités ne soient pas liées à une personne, un État, etc., mais qu'elles puissent être partagées à tous les hommes.
Fabrice Boudjaba, alors vous êtes historien, hein, directeur de recherche et directeur adjoint de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS. Rappelez-nous justement comment avant cette date, avant la Révolution française, jusqu'au 19e siècle en gros, en France mais ailleurs aussi dans le monde, chaque ville, chaque comté ou presque avait finalement ses propres mesures, c'est ça ?
C'est ça. Alors, l'extrait que vous avez diffusé est assez amusant de ce point de vue-là, parce que, en fait, il demande une simplification et n'avoir plus qu'une seule unité, une unité spéciale. Mais en réalité, le système dans lequel nous sommes, c'est-à-dire le système métrique, avec le poids, le kilo et quelques mesures, c'est déjà une énorme simplification par rapport à ce qui existait auparavant. En réalité, le système métrique de la Révolution, il naît à la fois d'une volonté de créer quelque chose d'universel, mais aussi de simplifier les systèmes en France. Il faut imaginer que, en réalité, d'une région à une autre, mais même parfois d'un village à l'autre, dans la même région, vous pouvez avoir une manière différente de mesurer les choses. Et quand vous comptez un pouce ou que vous comptez un arpent, vous comptez des surfaces, des distances qui sont très différentes d'une région à une autre. Et donc, si je prends l'arpent, par exemple, l'arpent, ça peut aller d'une mi-hectare à plus d'un hectare. Donc, du coup, selon les régions, de quoi parle-t-on ? Et en fait, ce que fait la Révolution, elle a, disons, la liberté que n'avaient pas les rois de France, malgré l'absolutisme, d'imposer quelque chose de complètement neuf. Parce qu'en fait, les rois ont déjà essayé à plusieurs reprises d'imposer des systèmes de mesure communs à tout le royaume, mais sans succès, parce que la force des traditions est là, mais aussi l'utilité des systèmes de mesure. Ce n'est pas parce que les systèmes de mesure étaient très variés d'une région à une autre qu'ils n'avaient pas... Les gens les connaissaient et savaient les manipuler. Voilà. Simplement, c'est un problème pour un État qui se veut centralisé d'avoir un système aussi confus. Je donne un exemple. L'édit de Villers-Cotterêts de 1539 de François Ier, on en parle beaucoup parce que c'est celui qui impose la langue française dans l'administration, mais c'est aussi un édit qui essaie d'imposer un système de mesure valable pour l'ensemble du royaume. Mais en fait, ces édits sur les mesures, ils sont répétés durant tout le XVIIe et tout le XVIIIe siècle parce qu'on n'arrive pas à imposer quelque chose de commun à tout le monde. Et finalement, la réussite de la Révolution, c'est de réussir à imposer le maître et quelques mesures de ce type.
Et ces mesures, oui, Jean-Michel Courtier, elles sont indispensables pour tous les échanges, les relations, et dès qu'on sort de ses propres frontières, allez-y.
Alors, juste, je voulais dire que tout n'a pas marché avec la Révolution, parce que il y a la décimalisation, le fait d'avoir des mesures divisables par 10, et ils avaient fait ça aussi pour le temps. C'est-à-dire que dans le système révolutionnaire, il y avait une mesure du temps qui était une mesure décimale du temps, avec des heures qui avaient 100 secondes, etc. Et ça, c'est pas passé du tout.
Et le calendrier non plus n'est pas passé.
Le calendrier non plus. Les semaines de 10 jours, c'est pas passé non plus. Donc on voit bien que malgré toute la puissance, effectivement, il nous reste le kilo, il nous reste le mètre, mais...
Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi le calendrier n'est pas passé alors que le mètre est passé, ou que le kilo est passé.
Oui.
Au fond, c'est que le calendrier n'avait pas vraiment d'utilité autre que idéologique et politique, alors que le mètre répondait à un vrai besoin, notamment un besoin d'unification du marché. C'est-à-dire que pour faire des échanges économiques dans tout le royaume et ensuite dans toute la France, il fallait un système commun. Au tout début de cette histoire, il y a ce qu'on appelle les mercuriales. Les mercuriales, ce sont des registres qu'impose la monarchie à toutes tous les villages et toutes les villes de France pour mesurer les prix du blé, ce qui est un objet extrêmement sensible, puisque il monte très fort, ça crée des révolutions ou au moins des révoltes. Et ces mercuriales ont été instaurées un peu partout en France. Le problème, c'est que chaque village de France, derrière le prix d'un setier de blé, ne mettait pas la même quantité, puisqu'encore une fois, la quantité variait d'un endroit à un autre. Et donc, là, il y avait une vraie nécessité à avoir le kilo, parce que ça correspondait à un vrai besoin, à une vraie question. Le calendrier, au fond, n'avait pas d'utilité.
Il y a une vraie nécessité dans ces mesures pour les relations humaines, pour les transactions commerciales, et puis pour les transports en commun. Ensuite, enfin, le chemin de fer, on en a bien parlé. Là, il faut avoir la même heure, être réglé exactement. Voilà, vraiment, ça devient une nécessité.
Et le même écart de rail. Au début, on changeait trois fois, je crois, d'écart de rail pour se rendre en Espagne, puisque les compagnies n'avaient pas les mêmes systèmes, et donc les trains ne pouvaient pas passer d'un système de rail à un autre. Et donc ça aussi, ça fait partie des questions.
Donc ce système de mesure devenu universel, d'unité de mesure devenue universelle, ça a été une obligation. Mais ce qui est assez génial quand même, c'est que né à la sortie de la Révolution, et puis ce qui s'est imposé dans ce système universel d'unité de mesure, c'est qu'il s'imposait aussi de le faire évoluer en fonction des besoins.
Oui, alors ça c'est quelque chose qui est vraiment remarquable. C'est le fait d'avoir quand même un système qui a été créé il y a 150 ans, qui, je le rappelle, est une convention, c'est-à-dire que c'est un traité diplomatique signé entre des États qui se mettent d'accord avec dessus une notion de... Enfin, c'est pas d'arbitraire, on peut pas faire n'importe quoi, mais par exemple sur le fait qu'il y a 7 unités fondamentales... C'est pas quelque chose qui est donné par les lois de la physique ou quoi que ce soit. C'est quelque chose sur lequel on se met d'accord. C'est la même chose que le fait de rouler à gauche ou rouler à droite.
C'est une convention. On se met d'accord sur un étalon pour fixer...
Avant même l'étalon, d'accord sur quelle grandeur on va prendre comme grandeur de référence. Et c'est pour ça que ces discussions qui étaient très intéressantes. Mais par exemple, les aviateurs, ils n'utilisent pas la même mesure pour mesurer les hauteurs qui mesurent en pieds et pour mesurer les distances qui mesurent en miles. Autrement dit, pour un aviateur, il y a deux types de distances différentes. Il y a les distances verticales et les distances horizontales. Et ils n'auraient pas l'idée de mesurer les distances verticales avec la même unité que les distances horizontales. Voilà, parce que l'aviation, c'est clair, c'est plus facile d'aller horizontalement que verticalement. Bon, mais quand on fait de la science, je prends ce livre, je peux le tourner. Ça veut dire que la dimension qui est horizontale, je peux la mettre verticale, etc. Et donc là, on se dit, non, c'est la même unité qu'il faut pour toutes les directions. Donc on voit bien que cette question de... Et puis les gens qui font de la relativité, le temps et l'espace, tout ça, ça va se mesurer en secondes. Parce qu'il y a la vitesse de la lumière. Donc les gens qui font de la relativité, ils ont besoin que d'une seule unité pour pouvoir mesurer le temps et l'espace.
Donc il a fallu se mettre d'accord sur le nombre d'unités, il a fallu se mettre d'accord sur les étalons.
Exactement.
Et il a fallu, en 2018, tout à fait récemment, il y a une autre révolution qui est passée pas tellement inaperçue, mais tout de même, dernière révolution en date sur ce système de poids et de mesure, axée non plus sur l'étalon, en l'occurrence l'étalon de platine pour le kilo, mais axée...
Sur des constantes fondamentales.
Sur des constantes fondamentales de la physique et des constantes de la physique quantique.
Exactement. Alors c'est ça qui peut paraître paradoxal, parce que souvent on associe la physique quantique au monde du hasard, de l'incertitude... La physique quantique, avant d'être le monde du hasard, c'est le monde de la régularité. En fait, pourquoi ? Parce que quand je prends tous les atomes, par exemple tous les atomes d'hydrogène, tous les atomes d'hydrogène de l'univers sont exactement les mêmes. C'est-à-dire, vous prenez un proton, vous prenez un électron, si vous prenez de la physique classique, vous prenez la Terre et la Lune, si vous construisez un nouveau système solaire, la Lune, elle peut être un petit peu à n'importe quelle distance. Vous prenez des pianos, vous pouvez les accorder un peu différemment. Les atomes d'hydrogène, ils sont tous parfaitement identiques et ils émettent tous parfaitement les mêmes lumières, les mêmes longueurs d'onde. Donc, en fait, c'est la physique quantique qui met une régularité qu'on a nulle part ailleurs, et qui va permettre de mettre la définition de l'unité, j'allais dire presque la plus fondamentale, qui est la seconde. C'est la mesure du temps. Les mesures de temps, c'est les mesures les plus précises qu'on est capable de faire. Et d'ailleurs, on le fait avec des horloges atomiques qui utilisent la physique quantique. Et on arrive à mesurer le temps avec 15 chiffres significatifs près.
Grâce
à la physique quantique.
C'est ça, comme quoi la physique quantique est au cœur de notre nouveau système de mesure autour de la question. Pourquoi de la mesure en toute chose et jusqu'où ? Les nouvelles questions sur cette science de la mesure, la métronomie, et sur la mesure en science, soulevées par l'astrophysicien du CEA, Roland Lehoucq, grand empêcheur de mesurer en rond. On l'écoute.
Une question qui me paraît très intéressante, c'est de savoir si pour faire des sciences, il faut forcément passer par une mesure quantitative.
Vous n'en êtes pas sûr, Roland Lehoucq ?
Si, mais je leur pose la question. Mais on pourrait imaginer, j'en sais rien, moi. C'est ce qu'on a fait, nous, mais est-ce qu'on peut développer des sciences sans mesure quantitative ?
Qui veut répondre ? Fabrice Boudjaba.
Alors, oui. Alors, qu'est-ce qu'on entend par science ? C'est peut-être la première question. Au fond, la science, c'est d'essayer de démontrer les choses. Alors, ça peut être par une mesure, mais ça peut être aussi par un faisceau d'éléments qui alimentent la démonstration. Alors, évidemment, en physique, peut-être que la chose s'impose, encore que...
C'est pour la physique.
Oui,
pour la physique.
Non, pour la physique, sincèrement, la physique, on se définit, je veux dire, avec Galilée, avec tout ça, la physique, c'est la mesure.
Oui, c'est la mesure.
Pas de physique sans mesure.
Mais voilà, mais simplement, ce que je veux dire, c'est que pas de physique sans mesure, et pourtant, la physique n'a pas toujours eu les instruments de mesure qui lui permettait de démontrer ce qu'elle voulait démontrer, les théories qu'elle pouvait avoir. Et donc, j'ai envie de dire qu'on peut aussi faire de la science. On a été longtemps obligé de faire de la science sans les instruments qui permettent d'aller au bout de sa démonstration. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, alors si on prend le champ d'autres champs de la connaissance, et je pense aux sciences humaines et sociales, la mesure fait évidemment partie du sujet, mais la mesure ne résume pas tout le savoir dont on peut disposer dans ces disciplines-là, naturellement. Mais la mesure en fait aussi partie.
Mais même dans les sciences dures, il y a d'autres manières de faire de la science. Le point, c'est, je suis physicien et c'est un peu l'hégémonie des physiciens où on dit que la méthode scientifique, ce qu'on présente comme la méthode scientifique, c'est en fait la méthode des physiciens. Or, les mathématiciens, ils font des démonstrations. Ils n'ont pas machin, ils prennent d'hypothèses, ils font de la logique, etc. Les biologistes, ils ont fait des classifications. Vous prenez les plantes, vous prenez les animaux et on va essayer de classer le vivant. Pour classer le vivant, qu'est-ce qu'on fait? On observe, on regarde. Alors, OK, on va compter le nombre de pattes. Est-ce qu'on peut appeler ça des mesures? Pas tellement. Donc, je veux dire, et qu'est-ce qu'ils produisent? Ils ne produisent pas des théorèmes, ils ne produisent pas des noix. Ils essayent d'ordonner le monde qui est autour de nous. C'est de la science, ça, quand même. Enfin, pour moi. Donc c'est une autre manière aussi de faire de la mesure. Alors, il y a les historiens, mais les astros, les géologues et tout, ils cherchent à reconstituer un passé à partir de traces. C'est pas trouver des lois physiques et puis faire des mesures. Oui, on va pouvoir faire des datations, mais le passé, il s'est passé qu'une seule fois. On peut pas le reproduire et on peut pas retourner faire des mesures, etc. On a ce qui nous reste et pourtant on va faire de la science avec. Donc c'est pour ça que ça dépend vraiment des objets d'études et des objectifs.
Mais en même temps, aujourd'hui, on se dit qu'on est dans un monde où la science a de plus en plus de place et où il y a de plus en plus de mesures, et de plus en plus de mesures de plus en plus précises, alors que parfois, on peut se poser la question, Fabrice Boudjaba, vous parliez des sciences humaines et sociales, la question des indices, à partir de quels indices on mesure, justement?
Alors, l'indice, c'est une mesure, mais c'est une mesure approximative. Hein.
Ah, c'est ça.
On s'en sert. Je pense qu'au fond, de toute façon, il y a très peu de mesures qui soient parfaitement exactes. Et beaucoup de mesures, et pas seulement en sciences humaines et sociales, en biologie, quand vous prenez votre résultat d'analyse sanguine, selon le laboratoire qui l'a réalisé, vous ne tomberez pas exactement sur le même taux de leucocytes dans votre sang, etc. Hein. Donc cette question se pose de manière continue entre l'indice et l'indice, pour moi, c'est déjà clairement de la mesure.
Ouais, oui. Mais la mesure, justement, c'est quelque chose, c'est jamais tout à fait exact. Enfin, je ne parle pas des horloges atomiques, mais Jean-Michel Courtis, c'est jamais tout à fait exact. C'est quoi? C'est une, vous disiez, c'est comme une classification, c'est une décision. C'est vrai.
C'est vrai. Alors, la question, il y a deux choses. Et quand on fait une mesure, effectivement, quand vous demandez à un physicien c'est quoi une mesure, c'est une valeur, mais c'est aussi une incertitude. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, on peut le simplifier en disant qu'on donne une fourchette. Voilà. Vous demandez à un physicien, il va vous dire combien mesure cette table. Et bien, cette table fait 1,53 m, plus ou moins 1 mm. Voilà, avec une confiance de 99%. Donc, en gros, le physicien, il va vous donner une fourchette. Et le boulot des physiciens, c'est justement de contrôler cette fourchette, de la réduire, de savoir son origine. Et cette fourchette, elle peut avoir soit l'origine que l'instrument, il n'est pas très bon, qu'il faut l'améliorer, soit le fait que l'expérimentateur, il s'y est pris comme un pied. Bon, OK. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez aussi une fourchette qui vient de processus fondamentaux.
C'est ça.
C'est-à-dire du fait que les valeurs elles-mêmes vont fluctuer dans le temps. En fait, c'est le cas de la plupart des grandeurs physiques. Vous prenez par exemple la tension électrique au bord d'une résistance, il y a ce qu'on appelle le bruit Nyquist. C'est un bruit qui dépend de la température. Donc si vous mesurez la tension au bord d'une résistance, vous n'allez pas obtenir une valeur très précise, vous allez obtenir une valeur qui fluctue. Et l'amplitude des fluctuations est proportionnelle à la température, enfin l'énergie des fluctuations. Et ensuite, ce qui est fascinant, c'est que quand vous diminuez la température, ça diminue, et à un moment donné, ça s'arrête de diminuer. C'est les fluctuations quantiques. Voilà. Ce que nous dit la physique quantique, c'est que quand on arrive à température nulle, eh ben, il reste quelque chose. C'est ces fameuses fluctuations de point zéro. Et en fait, aujourd'hui, on a des expériences de physique qui mesurent très précisément et qui sont limitées par ces fluctuations.
Autour de la question pourquoi de la mesure et des fluctuations en toute chose, allez, on s'arrête en musique évidemment sur la mesure du temps. Là-dessus, on est tous d'accord. 7 secondes de bonheur, 7 seconds, le duo magique entre Youssou N'Dour et Néné Cherry sur RFI.
J'assume les raisons qui nous poussent de changer tout. J'aimerais qu'on oublie le couleur pour qu'ils espèrent. Beaucoup de sentiments, de race qu'il faut, qu'ils désespèrent. Je veux les gamins ouverts, les amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le vivent. Des infos qui ne divisent pas, changer.
7 seconds, on en chante moins bien que Néné Cherry et Youssou N'Dour sur RFI. Autour de la question de la mesure du temps en particulier, qui devient de plus en plus précise, et puis nous on parle en temps universel, il est 15h32 sur RFI, et c'est comme ça qu'on peut s'accorder sur toute la Terre, autour de la question pourquoi de la mesure en toute chose, et pas seulement en sciences exactes, hein, on l'a dit, je propose l'éclairage de la troisième plume de cet ouvrage paru aux éditions du CNRS, et dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs, de la mesure en toute chose. C'est l'éclairage de la philosophe Marie Gaille, directrice de l'Institut des sciences humaines et sociales du CNRS, que notre reporter Charlie Dupuis avait rencontré en 2018 au moment précis de la redéfinition des unités de mesure pour comprendre ce que les sciences humaines et sociales, comme la philosophie, avaient à nous dire sur nos communes mesures. On écoute Marie Gaille.
Les sciences humaines et sociales se préoccupent aussi énormément de mesures, alors sur plusieurs plans. D'abord parce que les activités humaines engagent en fait non seulement énormément d'opérations de mesure, mais aussi l'idée même de communes mesures. Donc évidemment, l'exemple majeur, c'est celui de la monnaie, hein, et de l'utilisation d'une même monnaie pour échanger des produits sur les marchés, et de la possibilité de convertir différentes monnaies pour échanger des produits sur un marché. Mais au-delà donc de cet aspect lié à l'économie. La commune mesure, c'est aussi la possibilité de partager des expériences sensorielles, alors des expériences extrêmement désagréables comme la douleur. Hein. Et aujourd'hui, dans les hôpitaux, on s'efforce de prendre en compte le point de vue du patient, son expérience, et on essaye de lui faire dire voilà, à quel point il a mal, combien il a mal, de situer ça sur des échelles de la douleur avec des chiffres, donc de 0 à 10. On s'interroge finalement depuis l'Antiquité pour savoir si l'harmonie musicale est quelque chose que l'on peut calculer et donc reproduire, et si cette beauté que l'on peut rattacher à l'harmonie de la musique est une beauté mathématique finalement, voilà, et donc universelle. Je pense que cette question de commune mesure, effectivement, elle est très importante dans le contexte qui nous occupe, parce que la Révolution française, elle avait cet idéal de partage, d'universalité, et l'époque des Lumières est aussi celle où on a le plus réfléchi au contrat social. Et parmi les penseurs du contrat social, il y a le philosophe écossais David Hume, qui a le plus clairement peut-être exprimé que la confiance était la base de la vie sociale. Et c'est quelque chose qui a été après thématisé jusqu'à nous aujourd'hui, notamment à travers des réflexions politiques comme celle de Hannah Arendt. Sans confiance, pas de vie sociale possible. Et la confiance, elle repose aussi sur beaucoup de conventions qui permettent aux uns et aux autres de se retrouver et finalement de pouvoir se reposer sur des conventions communes. Donc il y a celle du temps, l'heure des rendez-vous, il y a celle de la mesure des biens qu'on échange et qu'on achète. Et de façon plus générale, c'est vraiment l'idée d'avoir un univers commun, un espace-temps commun qui permet, entre autres, de fonder cette confiance sociale.
Fabrice Boudjahba, j'ai envie de faire réagir évidemment l'historien que vous êtes au propos de la philosophe Marie Gaille sur la confiance. Finalement, ces conventions, cette mesure de toute chose, c'est presque obligatoire, essentiel pour avoir confiance et pour vivre en société. Il faut qu'on s'entende sur nos mesures.
C'est indispensable. C'est indispensable, en fait, d'avoir des mesures pour s'entendre, pour faire comme une mesure.
Oui.
Mais il est aussi indispensable d'avoir confiance dans la mesure. Et c'est ça qui est intéressant avec cette histoire du mètre et du kilo et de tous ces systèmes de mesure. Parce qu'au fond, c'est l'histoire d'une confiance qui s'établit entre les États pour construire des outils communs. Mais c'est aussi la confiance de l'individu dans ce système de mesure.
C'est vrai.
Parce qu'au fond... aujourd'hui, personne ne met en cause la mesure. Quand on va chez son boucher, il vous dit c'est 1,2 kg. On le croit, parce que derrière ça, il y a tout un système de métrologie légale qui fait que son appareil est régulièrement contrôlé, etc. Et donc, toute la société fait confiance à la plupart des mesures communes que l'on rencontre au quotidien. Mais ce que je trouve intéressant dans le moment qu'on vit avec ce changement du système de mesure, à un moment où on dit que finalement, le citoyen n'a plus tellement confiance dans la science, aujourd'hui, on est passé à un système de mesure quantique auquel... personnellement, et je crois que beaucoup d'entre nous ne comprennent strictement rien. En fait, il faut être physicien pour comprendre. Auparavant, il suffisait d'aller au pavillon de Sèvres, de regarder les talons, et on pouvait se dire, voilà le kilo, voilà le mètre. C'était quelque chose de tangible, de compréhensible pour les individus. Aujourd'hui, en fait, ça ne l'est plus du tout. Il faut avoir une solide formation en physique pour comprendre. Et pourtant, on fait confiance au système de mesure tel qu'il est institué. Donc, c'est bien que la mesure est... Et la confiance est indispensable à la fois au fonctionnement du système de mesure et qu'en sens inverse, les mesures elles-mêmes n'existent que parce que...
Que parce qu'on a confiance en elles, que parce qu'on est tous d'accord pour y adhérer et ça s'est fait en 2018 sur toute la planète.
Ce que disait tout à l'heure Jean-Michel sur la confiance dans des fourchettes, en fait, c'est ça, en fait. Il n'y a pas de mesure parfaitement précise, mais il y a un moment où les physiciens, dans leur domaine, ou les historiens dans le leur, ou les sociologues dans le leur, s'accordent sur une fourchette dans laquelle la mesure est construite de manière acceptable pour tous et dont le résultat est admissible pour tous.
Parce qu'en fait, cette question de fourchette et d'incertitude, c'est une règle qui permet de dire si on va considérer qu'un écart est significatif ou pas. Autrement dit, si on veut mesurer deux choses, je me pose la question, est-ce que ça a la même longueur ? Le truc, c'est que même un même objet, vous le mesurez deux fois, vous obtiendrez pas le même résultat. Mmh. Et ou si vous voulez comparer des objets, vous comparerez un objet, une théorie, vous n'aurez jamais les mêmes résultats. Et en fait, cette notion d'incertitude, c'est une règle qu'on s'est fixée et qui va permettre de dire, eh bien, oui, là, je peux considérer que c'est égal, parce que la différence est plus petite que mon incertitude, ou je vais considérer que c'est différent parce que l'écart est plus grand que l'incertitude. Et c'est ça tout le boulot des physiciens et des métrologues.
C'est vraiment la science de la mesure.
C'est de justement contrôler, mesurer et d'adopter ce que les ingénieurs appellent la qualité juste. C'est-à-dire que selon ce qu'on veut faire, on n'a pas besoin de la même précision. C'est-à-dire quand vous allez chez le boucher, vous souhaitez que ce soit précis à une dizaine de grammes. Mm-hmm. En revanche, quand vous allez acheter de l'or, par exemple, ou vendre un bijou en or, peut-être vous vous dites quand même, mieux le
10 grammes, je veux quand même, là.
Peut-être mieux que le gramme, ce serait bien, etc. Et donc l'idée aussi, c'est de savoir ajuster la qualité de ce qu'on veut et donc les moyens qu'on va se donner, la difficulté, par rapport aux besoins qu'on a. Et ça, c'est vraiment le besoin des physiciens, des métrologues, qui sont là pour faire toutes ces définitions, pour construire des nouveaux instruments et pour maintenir le système. Parce que, parce qu'en ce moment, c'est dans les, quand on parle toujours de sciences et sociétés, on est sur les questions qu'il faut innover, qu'il faut répondre aux crises, etc. Et il n'empêche qu'il y a un moment, il y a aussi un travail de maintenance. Je veux dire, vous prenez le métro, tous les 30 ans, on refait les stations. Vous volez un mur, pour qu'un mur soit blanc, il faut le peindre régulièrement. Et bien, le système d'unité, c'est pareil. Si on veut que ce système il soit vivant, qu'il soit efficace, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens derrière.
Des scientifiques qui réactualisent.
Exactement. Qui réactualisent en permanence pour conserver les savoir-faire, pour les améliorer et pour qu'ils répondent aux besoins de l'époque.
Et ce qui veut dire aussi, puisqu'on parlait de la confiance, et que la confiance en la science aujourd'hui, elle est quand même remise en question, que là, en l'occurrence, non. C'est pas remis en question sur les mesures qui sont basées scientifiquement, et il n'y a pas de remise en question. Et pourtant, ça a des conséquences, et ça se répercute, et c'est fondamental dans nos vies sociales, politiques, économiques. J'ai dit le mot politique. Nouvelle question pour vous, justement, sur autour de la mesure politique du monde, soulevée par un autre astrophysicien. Tiens, donc David Elbaz, lui, il voit très loin puisqu'il est en charge, il est au CEA, en charge des appareils qui sont sur le prochain gigantesque James Webb télescope. Et il a une question pour vous, vue d'ailleurs dans l'espace comme dans le temps.
Bonjour, j'ai une question qui me vient à l'esprit quand je pense à la mesure. C'est quand je suis allé à la Cité Interdite, j'ai réalisé que les deux emblèmes qui signalaient la puissance de l'empereur, c'était des emblèmes pour mesurer le temps. Un gnomon, qui est un cadran solaire, et puis un clepsydre, qui mesure aussi le temps. Pourquoi l'empereur avait-il besoin de montrer ces symboles pour montrer sa toute-puissance? C'est parce qu'il était capable de mesurer le temps, alors qu'il avait une armée. Mais non, il s'est assuré de sa puissance en mesurant le temps. Et nous, en science, quelque part, je me demande si on n'est pas en train de faire un peu comme l'empereur de Chine en essayant d'obtenir une sorte de puissance, en essayant de mesurer le temps, mesurer la matière, mesurer l'espace. Est-ce que c'est vraiment libre de toute intention, notre quête? Qu'est-ce que vous en pensez?
Qu'est-ce que vous en pensez? Qui veut répondre? Jean-Michel Courty, Fabrice Boudjaba? Fabrice.
Je peux commencer? Oui, évidemment, il y a une relation entre le pouvoir et le temps, et entre le pouvoir et la mesure. Alors, oui, c'est valable pour les empereurs de Chine, c'est valable pour d'autres. Si je prends un exemple plus contemporain, je ne sais pas si c'est de lui ou si c'est des commentateurs journalistiques, mais notre président de la République est souvent qualifié, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, de maître des horloges. Mm-hmm, il faut maîtriser le temps quand on est au pouvoir.
Et la mesure est une question politique, enfin, de pouvoir.
Et la mesure est vraiment une question politique parce que, en fait, sur la fin de l'intervention qu'on vient d'écouter, on se pose la question de savoir si finalement la mesure, les scientifiques ne seraient pas en train de s'emparer du pouvoir à force d'imposer la mesure. Si on revient un peu en arrière, on se rend compte que la mesure, c'est pas tellement un objet scientifique au début, c'est d'abord un objet politique.
Ah, c'est ça.
On trouve beaucoup d'exemples. Par exemple, aujourd'hui, les épidémiologues qu'on entend beaucoup autour du Covid à mesurer les taux de mortalité, les taux d'incidence, etc. On a l'impression que tout ça, c'est un savoir strictement scientifique. En fait, le savoir sur la population, c'est d'abord un savoir qui a été construit par une demande politique et qui s'est ensuite constitué en sciences statistiques, etc., en sciences démographiques. Parmi les exemples les plus classiques, c'est, la base de la démographie, ce sont des États qui cherchent à compter leurs habitants, selon les cas, soit pour compter leurs potentiels soldats, soit pour mieux faire rentrer l'impôt. Hein. On peut voir les choses de ces deux manières, mais
c'est
elles sont
liées. C'est pour assurer leur pouvoir. Ils ont besoin de la mesure pour assurer leur pouvoir.
Pour se compter, pour compter leurs ressources. Si je prends, j'aime beaucoup cet exemple, celui des tables de mortalité. Aujourd'hui, les épidémiologues regardent la durée de vie des individus, l'espérance de vie, etc. En fait, les tables de mortalité, elles ont été inventées pour des raisons extrêmement pratiques, qui sont en fait les systèmes de rente viagère. À l'époque moderne, beaucoup de gens vendaient leurs biens en viager parce qu'il n'y avait pas de système de retraite. Et donc, simplement, à un moment donné, on avait besoin de savoir combien de temps en moyenne allaient vivre les gens à qui on prenait les biens en viager. Donc voilà. Et c'est après seulement au 19e que la statistique, qui est encore une fois une demande des États, se transforme au 19e ou 20e siècle en une science à part entière. Donc, j'ai envie de dire, oui, la science, évidemment, nous impose ces mesures, mais elle ne prend le pouvoir que dans la mesure où les politiques veulent bien lui céder, j'ai envie de dire.
Parce qu'à la fin, quand on regarde comment est organisé le système international, c'est un traité entre États. Le changement d'unité a été signé par des diplomates, avec des dossiers qui ont été instruits, préparés par des scientifiques, par des commissions, mais à la base, c'est les États qui demandent de le faire. Et pourquoi ? Parce que effectivement, ils ont besoin d'avoir des mesures communes pour toutes les raisons qu'on a données. Et si on regarde par exemple au niveau de l'électricité, eh bien, il se trouve que les progrès de la technique ont fait que de la physique quantique, les foules quantiques, etc. Dans les années 1990, les unités du SI, du système international pour l'électricité, étaient pas assez précises pour les besoins. Notamment, par exemple, sur le fait qu'on a une interconnexion des réseaux d'énergie. Et que, on va s'échanger de l'énergie entre la France et l'Allemagne, par exemple. Et le problème, c'est que, on n'avait pas le même kilowatt en France et en Allemagne. Je simplifie, mais il y avait un problème sur les échanges énergétiques, des problèmes de cet ordre-là. Et donc, les électriciens ont dit, écoutez, nous, on ne peut plus travailler ensemble. Le système international, ça ne va pas. Sauf que le SI, c'est quelque chose qui prend du temps parce que il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et donc, il y a eu un accord entre les sociétés savantes d'électricité et industrielles d'électricité de dire, écoutez, pendant quelques années, on va se faire notre système à côté du système international avec les phénomènes quantiques. Pendant ce temps-là, donc en 1990, donc entre 1990 et 2018, les électriciens n'ont pas utilisé le système international pour mesurer. Parce qu'ils avaient besoin de faire mieux. Et ce n'est pas les scientifiques, c'est les industriels, c'est les économistes. Et ensuite, pendant ce temps-là, l'ESI a travaillé. Et puis là, 2018, les nouvelles unités, en fait, elles sont en connexion avec les unités qui s'étaient définies tranquillos dans leur coin. Et maintenant, ça y est, ils ont réintégré l'ESI et tout va bien. Donc, ce n'est pas les scientifiques qui ont dit qu'il faut changer ou quoi que ce soit. Je veux dire, là, sur cette question des mesures, des précisions, et puis ça coûte des sous, le BIPM. Les États, ils mettent plein de sous là-dedans. Donc, ce que je veux dire, sincèrement, vous croyez qu'ils sont philanthropes pour donner des sous aux scientifiques, aller chercher 15 chiffres ?
C'est eux qui veulent la mesure, finalement.
Voilà.
Et ça n'a pas été mission impossible d'arriver à s'entendre sur notre petite planète. Vous voyez où je veux en venir, cher Jean-Michel Courty, car même dans le générique de Mission Impossible, il y a de la mesure. Pourquoi avez-vous voulu écouter le générique de Mission Impossible, Jean-Michel?
Parce qu'on parlait de mesure, et puis il y a d'autres personnes, il n'y a pas que les physiciens, mais les historiens qui mesurent, il y a les musiciens ont une mesure où on va compter les temps. Et donc, en général, on a la marche militaire à deux temps, on a les valses à trois temps. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, même encore là, vous voyez, on a l'impression qu'on est corseté par ces mesures, deux temps, trois temps, etc. Et puis, il y a les musiciens, ils se disent, mais on s'en moque, qu'est-ce qu'on va faire? Et on va faire une mesure, par exemple, à cinq temps. C'est cette fameuse mesure qu'utilise Lalo Schifrin pour son générique de Mission Impossible. C'est aussi la mesure de Take Five. Ça donne un rythme tout à fait pareil. 1, 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 1, voilà, ça donne un rythme particulier. Et après, les musiciens vont aussi s'autoriser à changer la mesure, à mélanger les mesures. Donc c'est ça que j'allais dire que je trouve intéressant, c'est que d'un côté, on met en place un système très rigide, très codifié, etc. Mais à la fin, quand on le met dans la main des hommes, c'est libre cours à l'imagination.
Et finalement, le corseté, la grille de lecture, la mesure nous permet de nous libérer et de faire un cadre.
Le truc, c'est qu'on élargit le vocabulaire. Une fois je suis convaincu que quand on augmente le vocabulaire et la syntaxe, à ce moment-là, on peut faire beaucoup plus de phrases que si on n'avait pas mesuré, qu'on fait un petit peu de l'à peu près, parce que dès qu'on fait de l'à peu près, on se répète.
Alors expliquez-nous, Jean-Michel Courty, puisque vous le faites très bien sur votre chaîne YouTube Demain la physique, comment peser son chat?
Merci la physique.
Merci la physique.
Oui.
Qu'est-ce que j'ai dit demain la physique? Non, c'est merci la physique.
Dans ce dernier épisode, l'idée c'était de revenir un petit peu sur les balances traditionnelles, donc la fameuse balance romaine qu'on ne voit plus, mais qui était sur tous les marchés, où on accroche un poids d'un côté et de l'autre côté. Ce qui est super dans la balance romaine, c'est qu'on n'a pas des poids à rajouter, à se trimballer avec soi. On a un poids qu'on fait glisser sur un anneau pour pouvoir faire l'équilibre. Plus il est loin, plus le moment physique, on va dire, plus ça va faire tourner. Et donc, si on trouve la bonne distance, on va pouvoir peser ce qui est à gauche. Et donc, moi, je trouve ça sympa d'avoir, de retrouver des principes physiques de base, très, très de base, sur un instrument aussi simple. Et puis, alors après, il y a la balance de Robert Val, qui est fantastique. Pourquoi c'est fantastique ? Parce que vous prenez une balançoire. Selon la distance à laquelle vous êtes de l'axe, ça va plus ou moins appuyer. D'accord ? Bon, bah, la balance de Robert Val, où que vous mettiez l'objet sur le plateau de la balance, ça compte pas. Près de l'axe, loin de l'axe, parce que c'est un système à deux axes, fléau contre fléau. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est dans la vidéo, mais c'est fantastique.
Et bah, rendez-vous voilà. Sur cette vidéo, donc sur Merci la physique, comment peser son chat. Alors faut-il, doit-on, peut-on tout mesurer, même son chat, jusqu'où, ou plutôt jusqu'à combien? Allez, on continue de s'interroger autour de la mesure en toute chose, à l'écoute de Féloche sur RFI. Combien y a-t-il de... combien hein?
Combien y a-t-il de marins dessalés, de fleuries ignorées? Combien y a-t-il de bateaux dans ma rue? Combien y a-t-il de pirates atypiques, de corps subaquatiques? Combien y a-t-il de maisons du pendu? Combien y a-t-il de jours de pluie dans toute une vie? Combien y a-t-il de cordes à ma guitare, de marins dans les bars? Combien y a-t-il de larmes au coin de l'œil? Combien y a-t-il de plumes à mon chapeau, de vagues à Saint-Malo? Combien y a-t-il de tatoués sur le seuil? Combien y a-t-il de jours de pluie dans toute une vie? Combien y a-t-il de jours de pluie dans toute une vie?
Combien y a-t-il de jours dans toute une vie? Ça, on n'en sait encore rien et c'est impossible à mesurer. Féloche sur RFI. Autour de la question de la mesure, en compagnie de nos invités, le physicien Jean-Michel Courty et l'historien Fabrice Boudjaba, autour de leur ouvrage collectif édité par le CNRS et intitulé « De la mesure en toute chose », dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, si vous avez de la chance et si vous nous donnez votre adresse postale par mail ou sur notre page Facebook, autour de la question « Pourquoi de la mesure en toute chose ?» Dernier éclairage tout de suite en forme de question, soulevée par le chercheur explorateur Christian Clos, qui vient de passer 40 jours sous terre et hors du temps avec 15 volontaires dans une grotte en Ariège, sans montre, sans calendrier, sans mesure, donc sans mesure du temps. L'expérience Deep Time pour tester les limites de l'adaptation humaine. Au sortir de sa grotte, Christian Clos nous a laissé une question pour vous, messieurs.
Une question à leur poser très sérieuse. Alors bonjour, j'ai une question très importante pour moi. On est passé un jour où la minute s'est divisée en 60 secondes et maintenant on a inversé les choses. C'est la seconde qui fait 9 milliards d'oscillations d'atomes de césium. Est-ce que vous pensez qu'on va devoir aller encore plus loin dans la mesure de précision pour définir notre univers, notre histoire et nous-mêmes, le vivant humain? Est-ce qu'on a besoin encore de ça aujourd'hui?
Et justement, je rebondis un peu là-dessus, Christian Clos, vous qui avez vécu 40 jours sous terre, et je ne sais pas si c'est sans mesure, mais en tout cas sans mesure du temps du tout, c'est bénéfique, c'est pas bénéfique?
Une seule réponse à la fin, les 15 personnes dans cette grotte ont tous exprimé un sentiment de liberté extraordinaire qu'ils n'avaient jamais ressenti jusque-là.
De vivre sans temps, sans
ouais.
mesure.
Ouais.
Le bonheur d'échapper à toute mesure, qu'en pensez-vous? L'un et l'autre, Fabrice.
La mesure, la question, c'est d'avoir à quoi ça sert. Si l'expérience dans la grotte démontre l'adaptation humaine à un autre dispositif sans mesure.
Et ça a été assez compliqué. Il a fallu se désynchroniser, se resynchroniser. Enfin voilà, mais c'est possible.
Voilà, mais la question, c'est aussi l'adaptation. l'adaptation sociale, j'ai envie de dire. C'est en fait, vrai. La mesure, elle sert à ça.
Bien sûr.
Les mesures, ce ne sont jamais que des conventions qui nous permettent de vivre en société et de faire société. Donc, on ne peut pas complètement s'en dispenser. Après, la question du degré de mesure et du choix des objets qu'on mesure, ça, c'est une vraie question, j'ai envie de dire, une question politique.
Qu'est-ce qu'on veut mesurer ?
Si je prends l'exemple donné dans l'interview de la seconde, aujourd'hui, en bourse, en fait, il y a des intelligences artificielles qui donnent des ordres de commande. Et donc, pour ça, on a besoin d'une mesure extrêmement précise du temps. Et c'est à ça que servent les horloges atomiques, au fond, pour savoir qui a fait le premier la transaction, pour savoir dans quel ordre on détermine les gagnants et les perdants de la transaction. Voilà, peut-être qu'on peut s'interroger sur l'utilité de ce type de dispositif où, finalement, la mesure échappe à l'humain, d'une certaine manière. Mais encore une fois, la mesure, elle sert. C'est une convention qui nous fait vivre en société.
Oui, c'est une convention qui nous fait vivre en société, mais jusqu'où, justement, oui, Jean-Michel Courty ?
Ce qu'il a vécu, c'est pas une absence de mesure. Enfin, il n'y avait pas de mesure, mais c'était aussi une absence de périodicité extérieure.
C'est vrai.
C'est-à-dire qu'on aurait pu aussi imaginer qu'il aille sur une île déserte et qu'on supprime toutes les montres, etc.
Mais là, il n'y avait même pas le jour et la nuit.
Et voilà.
En plus.
Et voilà. Et c'est ça. Et en fait, ce sentiment de liberté, pour moi, tient pas tant à l'absence de mesure du temps qu'à l'absence d'une périodicité imposée par le jour. En fait, notre corps, donc là, c'est le physicien qui se remet à parler.
Oui, oui.
En fait, on a plein de phénomènes périodiques.
On a plein d'horloges internes.
Et il y a un vrai quelque chose qui est vraiment stupéfiant, c'est comment toutes ces horloges se synchronisent les unes avec les autres. Il y a l'horloge du réveil du cerveau, il y a les horloges au niveau digestif, il y a les horloges, je veux dire, partout dans le corps, on a plein d'horloges, de phénomènes de synchronisation. Et c'est pour ça, par exemple, que quand on a des troubles du sommeil, c'est si compliqué à soigner, parce que c'est pas monofacteur, c'est qu'il y a plein d'horloges qui sont légèrement, et donc on a les processus d'autorégulation des horloges qui sont mis en panne. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand là, le jour machin, on a un forçage extérieur pour le physicien. C'est-à-dire, vous avez vos oscillateurs internes, puis vous avez un forçage extérieur qui est le jour et la nuit. Et à la fin, vous devez vous débrouiller avec votre système pour qu'il s'adapte à ce forçage extérieur. Vous allez dans l'obscurité, enfin, dans une grotte, il y a plus forçage extérieur. Donc, vos oscillateurs, eh ben, ils peuvent se remettre chacun à leur rythme, entre guillemets, naturel, et se resynchroniser par eux-mêmes au lieu d'essayer de faire la course avec le jour et la nuit. Donc moi, j'aurais tendance à lui dire...
Là, vous expliquez bien comme ça le bien-être. Par contre, son autre question sous-jacente aussi était, finalement, pourquoi avons-nous besoin de tant de précision ? Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi se poser la question ?
Alors,
Ça dépend des objets.
Voilà, en tant que physicien, je veux dire, ça fait.
Et oui, pour moi, ça fait partie de notre boulot.
Non, parce
sûr.
Que sincèrement, bien je veux sûr. Dire, là, on bute sur des trucs. Il y a la question de la limite classique quantique, il y a le mur de Planck, il y a tous ces trucs-là. Donc, si on pouvait gagner encore
une dizaine
d'ordres de grandeur, ce serait
ça
sympa.
Vous intéresserait,
quoi.
Bah
ouais, il y a plein de trucs à faire, quoi. Ça ouvre des univers. Non, parce que là c'est l'exploration. C'est l'exploration. Mesurer plus précisément, c'est avoir d'autres loupes, c'est avoir un autre regard et c'est ouvrir des univers avec des choses qu'on n'imagine pas.
Donc... Alors là, je vous l'accorde vraiment pour les physiciens. Par contre, on se dit que nous, quand on mesure le nombre de pas qu'on fait dans la journée ou ce genre de choses, il y a peut-être un peu d'excès.
Il y a sans doute un peu d'excès quand on fait ça. Mais c'est intéressant la comparaison que fait Jean-Michel entre le fait d'être dans une grotte, finalement, sans le jour et la nuit, et sur une île où on aurait le jour et la nuit. Je ne sais pas dire si dans l'un des deux, on s'ennuie plus que dans l'autre, si on ressent plus le temps, en fait. Mais c'est vrai qu'il y a une question autour de ça. Là, dans cette expérience, ils sont en complète désynchronisation. Donc, c'est quand même assez particulier.
Je vais vous renvoyer sur leur livre. Ouais. C'est le mieux.
Il faudrait savoir s'ils sont synchronisés entre eux.
Oui. Mais ils ont, enfin, oui. Ça. Moi, je peux vous dévoiler quelque chose. Ils sont désynchronisés complètement d'abord et resynchronisés ensuite.
Ouais,
bon, ça, c'est dans Deep Time. Mais là, on s'occupait de la mesure aujourd'hui. Je vous rappelle. Hein. Et on est quand même loin d'avoir eu le temps de tout mesurer. Je vous renvoie donc, chers amis auditeurs, sur votre ouvrage, hein, Fabrice et Jean-Marie, de la mesure en toute chose, publié aux éditions du CNRS, co-dirigé par vous, Fabrice Boudjahaba et Jean-Michel Courty, et par la philosophe Marie Gaille. Et je vous rappelle que vous pouvez gagner un exemplaire, chers amis auditeurs et internautes, en nous le demandant par mail ou sur notre page Facebook. Et je renvoie aussi Jean-Michel Courty sur votre chaîne YouTube. Merci la physique pour savoir comment peser son chat. Ça peut toujours servir. Et merci d'avoir été là en bonne mesure, en commune mesure avec nous. Merci à tous les deux.
Merci. Merci.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager et à vous abonner à notre podcast. Au plaisir de vous retrouver demain, chers amis auditeurs, autour des mystères du corps humain. On vient d'en parler en compagnie du professeur Bernard Sablonnière qui nous dira tout sur le fonctionnement de nos organes. Du plus petit au plus gros, autour de la question comment nos organes nous font vivre, à suivre de l'intérieur. Avec Hugo Violas à la réalisation, Caroline Fillette en coulisses et Caroline Lachowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure des informations.